Le Pit Stop avec Denis Gravel vous est présenté par Marlin Chevrolet. Pour un petit VUS, un camion ou un véhicule électrique, passe chez Marlin Chevrolet Buick GMC à Québec.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
J'ai ta réponse, Max. Parce que je me souviens qu'il y avait un lien avec l'Expo 67 puis le Stade Olympique. En 1968, la Ligue nationale de baseball était très impressionnée par le succès d'Expo 67 et ont décidé d'accorder une franchise pour 1969 à Montréal.
Pas ma réponse, c'était ta question. Rien demandé, moi.
Oui, t'as raison. J'avais oublié que la curiosité, pour un journaliste, ça venait pas nécessairement avec.
Mais non, mais tu dis ma réponse.
Mais oui, mais c'est pour nos connaissances générales.
C'est notre réponse collective à tout le monde.
Oui, est-ce que t'as répondu à tous les auditeurs qui t'ont insulté ce matin entre l'heure de 6 et de 7?
Non, pas le temps encore.
Denis Gravel, salut!
Hello!
Faites quoi, là? T'es un père de famille, j'suis un père de famille. Jeff, c'est un père de famille. Il y a des auditeurs qui nous ont écrit ce matin entre 6 et 7 qui sont des pères de famille. On a un enfant en studio qui a un père qui est aussi découragé, qui a appris ce matin que le troisième permis temporaire de Max était échu.
T'es pas à tes affaires?
Ben, c'est pas que je suis pas à mes affaires, c'est que la date est arrivée plus vite que je pensais.
Ça fait 3 ans que Jeff est ici, ça fait 3 ans que tu fais ton permis de conduire.
Exactement, c'est une histoire qui revient semaine après semaine depuis 3 ans. Et honnêtement, maintenant qu'on en parle, j'ai un désintérêt total.
Non,
mais c'est parce que ça arrivera jamais.
Il attend le tramway?
Ben oui.
Oui, oh oui. Aussi.
M'embarquer dans le tramway.
Ben, on passera pas ici, là.
Lui, dans le fond, il s'est dit, il y a plus de chances que le tramway se fasse que le troisième lien, fait que pas besoin de permis de conduire.
Exact.
C'est terrible. Hey, la date est arrivée plus vite que je pensais. Fais pas ça qu'une pinte de lait, on va te ramasser à l'hôpital.
Ah, ça, il n'y a pas de danger, ça arrive, inquiète-toi pas.
Incroyable. Denis Gravel, c'est la rentrée parlementaire, c'est le discours de François Legault aujourd'hui. Tu t'attends à quoi?
Le gars qui se prend pour Rocky, là.
Ouais.
Il a jamais dit pour quel Rocky il se prenait, hein. Il se prend pour Rocky 5.
C'est Rocky 5?
Oui. Le Rocky 5, c'est un film tellement mauvais que le Rocky d'après, là, ils ont pas mis de chiffres. Pour faire semblant que le 5 avait pas existé puis pas faire de 6, tu comprends? Sylvester Stallone, le premier, avait tellement honte de ce film-là qu'il s'est dit « on repart Rocky à zéro, on continue de raconter l'histoire de Rocky, mais on fait comme si Rocky V n'avait pas existé puis qu'il vivait tout seul sur une bulle dans un monde parallèle
à
part. »
Ça, c'est le film avec Sylvester Stallone puis Tommy Morrison qui jouait le rôle de Tommy Gunn.
Tommy Gunn, oui, et ça se termine dans une bagarre dans les rues de Philadelphie et la seule phrase mémorable de ce film-là, c'est « mon ring et moi, c'est la rue. » Et... Mais Tommy Morrison était un vrai boxeur, puis il t'avait...
Sidatique.
Il t'avait toute une droite.
Ouais.
Il a commencé à avoir une célébrité à la Mike Tyson parce qu'il passait les KO très rapidement. Mais je pense que sa carrière s'est terminée aussi vite que le succès de Rocky V au box-office.
Tu parles de sa carrière d'acteur?
Sa carrière de boxeur.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait le sida.
Ouais.
Tu comprends que...
Devenu séropositif.
C'est ça, exact. Les gens qui étaient pressentis pour se battre contre lui étaient un peu stressés.
J'imagine.
Il y a comme un peu de sang dans un
match
de
boxe. Oui, quand même, ça peut arriver.
Il y avait un boxeur qui avait accepté, là, j'y vais de mémoire, pour refaire un combat avec lui avant que la maladie prenne trop le dessus.
Ah oui.
J'ai-tu George Foreman en tête?
Non, c'était pas George Foreman. Je vais aller voir. Je fais une recherche, puis je vous vois.
Mais bref, oui, c'est ça, dans son cas à lui. Fait que Rocky 5. Fait que selon toi, François Legault, c'est Rocky 5.
Oui, parce que Rocky 1, écoute, c'est un vrai success story. Oui, pas celui de Rocky, celui de Sylvester Stallone. Parce que c'est lui qui a écrit le scénario de Rocky, puis on l'oublie trop souvent.
Ouais.
Et Sylvester Stallone avait une seule condition. Je vous vends mon script.
Je veux être dedans.
C'est moi qui va jouer Rocky. Et il n'y a pas une... compagnie hollywoodienne qui a voulu lui faire confiance. Donc, lui, il a attendu. Il a crevé de faim pendant quelques années. Puis, à un moment donné, il a décidé de faire son film à sa façon. Et c'est devenu le success story qu'on connaît. Je comprends que Rocky, le personnage fictif, c'est une histoire de rédemption, mais pas aussi grande que celle de Sylvester Stallone, qui a attendu, qui a refusé des offres parce qu'il voulait faire son film à sa manière.
Puis il a vécu dans la grande pauvreté très longtemps avant d'être capable de faire ce film-là. Puis parce qu'avant, il faisait des films porno. Hein.
Oui.
Il a commencé par des films porno, Sylvester Stallone.
Les talons italiens.
Oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être que, comment elle s'appelle là, l'actrice porno québécoise, là, la fille de l'UQAM? Peut-être qu'un jour, elle gagnera un Oscar, qui sait?
Peut-être. Tout est possible ou presque.
Hélène Boudreau.
Ou
Hélène
presque.
Ouais. j'ai trouvé des infos. Là. On parle d'un en juin 96, il y avait eu un genre de gala qui avait pour tête d'affiche George Foreman. Et l'adversaire prévu de Morrison s'appelait Anthony Cooks à ce moment-là. Mais il a été arrêté pour viol et une affaire de drogue. Il a été remplacé par un certain Marcus Rode. Et le combat a finalement eu lieu en novembre 96. Puis on dit qu'il y avait des règles spéciales. Si un des deux se mettait à saigner, on arrêtait le combat. Puis c'est des cartes, des juges qui allaient décider. Mais finalement, Morrison a mis Rode trois fois au tapis dès le premier round.
Mais il était reconnu pour avoir toute une tapoune. Là.
Oui, puis, oui, oui.
Il y avait énormément de KO. Hey, tu voulais revenir sur l'Expo 67?
Hey, oui, bien, écoute, qu'un projet grandiose avec Daniel Gélinas à la tête se fasse, moi j'applaudis ça.
Ouais, moi aussi.
Je dis bravo. Faut juste faire attention, par exemple, je pense que Expo 67, c'est impossible à refaire.
Ah ouais?
Dans un monde où on est connecté. L'impact d'Expo 67, c'est que pour la première fois de notre vie, on a vu autre chose que des hot dogs puis de la poutine au niveau de la bouffe. Ça a amené une révolution culturelle au niveau de la bouffe. Pour la première fois de nos vies de Québécois, on a été exposés à des vins de qualité. Ça a amené une révolution de ce côté-là aussi. La culture, la première fois que des chansonniers québécois ont été exposés à la culture internationale. Ça a amené un Robert Charlebois à partir pour la Californie puis à revenir complètement transformé musicalement. La révolution politique, la révolution culturelle, Expo 67, c'est la libération de nos chaînes religieuses pour épouser une culture internationale. C'est comme si Internet était débarqué dans ton hood avant même son existence. Puis ça, ben, en 2025, où on a des images d'actualité internationale à tous les jours, puis qu'on a accès à toutes les nouvelles puis à toutes les cultures, tu peux pas créer un impact similaire. Est-ce que tu peux te servir d'un événement comme celui-là pour créer le Québec de demain? Ben, peut-être. Moi, je trouve que ça manque une vision globale à Québec, là. On fait des morceaux, on sait pas comment les recoller. Un bout de tramway, là, un bout de troisième lien à Broussailles, puis à un moment donné, on recollera tout ça. Une vision globale, c'est ça. Montréal s'était donné une vision globale, puis s'était donné le droit de rêver avec Expo 67. C'est là qu'on a commencé à rêver des Olympiques, de se bâtir un stade, d'avoir une franchise de baseball majeur, une franchise de la NFL.
Ça l'a amené essentiellement aussi en transport en commun le métro de Montréal.
En plein ça, en plein ça. Puis regardez encore des images d'Expo 67 aujourd'hui, puis vous avez l'impression de regarder un futur qui est jamais arrivé. C'est dur de croire que c'était à Montréal, cet événement-là, avec les petits wagons puis toutes les patentes. T'as l'impression que c'est Disney ou t'as l'impression que c'est le futur qu'on nous montre dans le nouveau film des Fantastic Four, là. Ou t'as un look rétro, mais c'est le futur.
Expo 67 a eu un impact majeur
sur
tu parlais de la culture
tantôt. Oui.
Mais à chaque fois que je vais à Montréal, il y a un impact majeur. Je vois toujours la fameuse sphère.
Oui.
Puis je me demande toujours à quoi ça sert.
Ben, imagine-toi quand le train passait dedans puis qu'il y en avait un autre puis que c'était... Hey,
t'as-tu vu la sphère, Max?
Ben oui, je vais au parc Jean-Drapeau tous les étés.
Mais pourquoi ils l'ont pas démantelé? Ça sert à quoi? C'est un souvenir?
Ça? C'est un reminder, j'imagine.
Oui. Ah oui, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Et quand j'arrive au parc Jean-Drapeau, je sors du métro, je vois la sphère, on dirait que tu sens que t'arrives quelque part de spécial, là, de...
Moi, ce que je trouve plate, c'est qu'elle est pas mal toute seule au combat parce qu'il reste pas grand-chose. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais il y a un documentaire sur l'application de Télé-Québec sur Expo 67. Peut-être à montrer à vos kids pour vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, on n'était pas connectés sur rien. On vivait vraiment en vase clos. Puis ce vase-là a éclaté de façon très subite. Puis, tu sais, on le dit souvent, on est passé d'un extrême à l'autre. On se sentait obligé de faire 13 enfants par famille because la religion. Puis là, Expo 67 arrive, boum, libération sexuelle, boum, libération culturelle, boum, pilule anticonceptionnelle, on peut baiser pour le fun, imagine-toi, ça peut être le fun, pas obligé de faire un enfant toutes les maudites fois.
Enfin, une clergé partie de nos vies.
Oui, puis ça a été fait vite, on est passé d'un extrême à l'autre, il n'y a pas de monde parfait, mais le déclencheur de tout ça, c'est Expo 67. Ça a fait qu'on a pris de l'avance sur le reste de l'Amérique du Nord. Montréal a pris de l'avance, depuis ils ont repris du retard, là, mais à cette époque-là, c'est une ville qui a pris de l'avance sur son développement et sur le reste de l'Amérique du Nord.
À cette époque-là, on rêvait économie à Montréal.
Oui, absolument, absolument. Puis on avait des rêves de grandeur, puis on disait, écoute, Montréal peut être une plaque tournante mondiale, entre autres, au niveau de la culture. Je sais que ce qui est à la mode à Québec, c'est le terre-à-terre. On est en élection municipale, on veut parler de vidange, on veut parler de déneigement, puis tout, puis tout. Rêver un petit peu, là, faudrait se repermettre ça à un moment donné.
Ouais, en 2008, d'accord.
En 2008, on s'est mis à rêver. C'est pour ça qu'il y a un nouvel aréna d'Anco, puis que le Canadien jouissait à soir contre les Sénateurs.
On rêvait d'avoir un festival d'été qui était international.
Oui,
on aimait bien les artistes québécois, là, mais c'était assez tranquille, le festival d'été, jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui disaient, hey, on peut se permettre de rêver.
Exact.
Puis avoir les plus gros bands du monde entier qui vont débarquer sur les plaines d'Abraham. Puis on va avoir 100 000 personnes sur les plaines d'Abraham qui sont comptées cette fois-ci. Plus besoin de mentir, 300 personnes au show! Ça n'existe plus, ça.
Ouais.
Mais 100 000 personnes qui sont là pour festoyer.
Je m'ennuie des rêveurs. Il n'y en a pas de rêveurs présentement dans la campagne électorale. Il n'y a personne qui me dit ma ville va avoir de l'air de quoi dans 10 ans.
Ouais.
Pourquoi je reste ici avec mes enfants? Cette portion-là me manque présentement.
On va peut-être avoir une réponse. Tu vas avoir un débat jeudi avec Sam Ahmad et Bruno Marchand. Les deux vont être en débat.
Et les deux vont avoir une plateforme électorale avec des promesses et des engagements.
Et
Sam Ahmad drop ça aujourd'hui.
Oui,
là.
Sam Ahmad, excellent timing de communication. Encore une fois, il fait ça à 14 heures pendant que François Legault fait son discours.
Il
aurait pu le faire à matin.
Et tu vas leur poser jeudi, moi, la question la plus pertinente à mes yeux, là, ça va être quoi Québec dans 15 ans? Où vous voyez Québec dans 15 ans?
Je trouve ça le fun que tu me dises ça. Parce que, tu sais, c'est difficile de resserrer les axes.
Ouais.
Puis au début, on en avait 8. Puis il fallait en enlever. Puis celui-là, dans ma tête, c'était le plus jetable des sujets.
Ah.
Puis je me disais, non, celui-là, j'y tiens. Celui-là, je le garde. Je veux les entendre là-dessus.
Refaisons pas les erreurs du passé. Pensez à ce qu'on a de besoin présentement sans penser au futur.
Puis quand on pense au futur, Yann, c'est pas juste de rêver. Hein, c'est de dire, dans 10 ans, on va avoir ce problème-là. On va commencer à le régler aujourd'hui.
Exact.
Dans 10 ans, la priorité de Québec, ça va être ça. Mais on va avoir pris de l'avance. Tu sais, rêver, c'est ça aussi.
Ouais.
C'est d'être capable de se projeter dans 10 ans, de voir venir les problèmes, puis de les pader. Peut-être qu'on aurait fait mieux au niveau de l'itinérance si on avait réussi à se projeter un peu dans le
futur.
Ben,
tu vois, moi, mon rêve, puis je pense que ça va justement avec les difficultés qu'on vit à l'heure actuelle avec le commerce local et nos artères commerciales. Mon rêve, pour moi, dans Québec dans 15 ans, là, ce serait que tous nos artères commerciales soient cartes postales. C'est-à-dire qu'un touriste arrive là puis fait « Hey, wow, faut absolument que je prenne la photo. » Parce qu'ici, sur Saint-Joseph, c'est la photo, c'est à cet endroit-là où il est marqué Québec.
Ouais.
Il faut que je le prenne. Hey, sur Saint-Jean, c'est telle chose. Sur Magoire, c'est telle chose.
Retrouver la fierté.
Sur Cartier. Ouais. Moi, c'est ça que je voudrais. Je veux que nos rues commerciales soient cartes postales, que tout le monde ait le goût d'aller se promener là.
Ouais.
Qu'il y a de l'économie qui se fasse en masse.
Retrouver la fierté qu'on avait dans le temps.
C'est un mot important, ça.
Ouais,
fierté.
Hier, je te parlais que dans le temps, il y avait un balai brosse qui était passé sur Saint-Jean le matin aux petites heures. Tu avais le camion qui passait avec la hausse puis qui nettoyait les trottoirs. On brossait les trottoirs. Il n'y avait plus de gras de la veille. Puis quand je passais, c'est samedi ou dimanche que je passais, c'était à 8 heures. C'était pas ramassé. Il y avait des papiers de la veille qui traînaient partout. Des liqueurs du Ronald McDonald qui étaient genre 500 mètres plus loin qui n'avaient pas été ramassés. Qui datait de la veille aussi. Il y a un commerçant qui m'a écrit, qui a domicile sur la rue Saint-Jean, et qui m'a dit, Yann, je suis content que vous abordiez ça parce que je suis le seul actuellement sur la rue Saint-Jean
à passer
qui
le balai.
Passe le balai devant ma vitrine. Les autres ne le font pas. Ça devrait être primordial. Vous voulez que la ville fasse quelque chose, commencez à le faire. Puis après ça, les autres vont embarquer. À un moment donné, ça va se rendre à la ville. Puis ils vont dire, mais c'est pas fou nettoyer la ville une fois de temps en temps pour que les touristes puissent voir quelque chose de propre. Je veux t'amener sur d'autres sujets, Denis, parce qu'il y en a un qui me flabbergaste ce matin. C'est sous la plume de Marie-Ève Cousineau dans la presse. Ce qu'il faut savoir dans l'article de Marie-Ève Cousineau, c'est Santé Québec, c'est devenu l'employeur unique du réseau public de santé le 1er décembre 2024.
La société d'État a demandé aux employés qui détenaient des postes dans les établissements différents et travaillant plus qu'à temps plein complet de choisir entre leurs deux emplois. Et devant le fait que les employés étaient un peu surpris de cette décision-là, ils ont décidé d'avoir une période de transition d'un an, mais à deux mois de l'échéance, à partir d'aujourd'hui, on ignore encore combien d'employés devront délaisser un poste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que deux employés qui travaillent pour deux hôpitaux différents, qui totalisent 50 ou 60 heures en travaillant dans deux hôpitaux différents,
oui.
Ben, ils vont devoir faire un choix. Mais... Puis la job, ça va être 40 heures, puis tu vas devoir travailler juste à une place. On a le don de s'entrecuter au Québec, là. T'as pas idée.
Je comprends pas le problème.
Ben, c'est le tribunal administratif du travail, c'est que c'est considéré comme de l'abus quand un employé qui travaille pour un seul employeur fait 70 heures par semaine.
Y es-tu performant pendant ces 60 ou ces 65 heures? Est-ce que c'est quelqu'un de passionné puis d'engagé pendant ces 60 et ces 65 heures? J'aime bien mieux quelqu'un qui donne ces heures-là puis qui le fait avec performance que quelqu'un qui botche puis qui grogne puis qui rote le ballonné après 30 ou 35 heures. Je vois pas la priorité, je vois pas l'urgence. On est dans un système où les problèmes s'accumulent, puis au lieu de régler des problèmes, on en crée d'autres.
La société d'État te rappelle, Denis, qu'elle doit mettre fin à ces situations de double emploi dans deux hôpitaux différents en vertu de la loi des normes du travail et des conventions collectives. Donc, la semaine de travail est balisée au Québec et nous devons donc nous conformer comme tout autre employeur.
On dirait que c'est quelque chose qui est fait pour que les syndicats aient plus de membres. Ça a l'air d'être un flattage syndical dans le sens du poil, parce qu'on a des ententes là, à régler là, dans les prochains mois. Ça a l'air de quelque chose qu'on donne aux syndicats, parce que je lisais leur réaction ce matin, puis hey, ces heures-là, là, c'est important de les donner à des travailleurs, puis tout ça. Eux autres, ils veulent juste voir augmenter leur nombre de membres pour être en mesure, après ça, de faire comme les boss de la FTQ Construction, puis aller dans des conventums à Dubaï, puis mépriser le monde quand tu reviens à Québec. Plus t'as de membres, plus t'as de cotisations, plus t'as de cotisations, plus t'as d'argent pour faire des beaux
Denis,
voyages.
Dans les hôpitaux, là, j'ai déjà vu une infirmière qui prenait une prise de sang à la mère de mes enfants, qui a dit « Je vais aller chercher ma collègue parce que je suis rendu à mon deuxième corps de travail, puis je suis en train de trembler. Puis pour faire une prise de sang, je serais pas capable de pogner à veine. »
Bravo. Okay?
Puis là, je me suis dit dans ma tête, tabarouette, cette infirmière-là est allumée, puis elle est consciente qu'elle peut créer un problème supplémentaire à un patient. Puis elle a la responsabilité d'aller voir une autre collègue et dire, hey, peux-tu la faire la prise de sang? Mm-hmm. Puis quand ça touche les infirmières, 60, 70, 80 heures par semaine, ou les médecins, je trouve qu'il y a plus de danger d'erreur. Mais dans le cas qu'on peut lire dans l'article de la presse, on parle d'un agent administratif, OK? Le gars, il a 54 ans, il a deux jobs dans deux hôpitaux différents, un qui est au CIUS, l'autre qui est au CHSLD, là, mais c'est pas grave. Et lui, on lui demande d'avoir juste un emploi, mm-hmm. Il peut pas faire plus que 40 heures par semaine, alors que lui a besoin de plus que 40 heures par semaine pour survivre.
Y a-tu du monde à 40 heures par semaine qui paraissent mal quand des agents administratifs sont capables de faire des semaines de 60-65 heures puis qu'ils sont pas en burn-out?
C'est clair. Ça aussi, oui, il y a tout ce jeu-là syndical de toujours ramener ça au plus bas.
Oui, puis...
Là, cette personne-là est apte à faire 65 heures. Elle veut le faire pour des raisons financières, des raisons personnelles. Puis elle se sent compétente et il y a un gestionnaire qui l'évalue puis qui dit, ben savez-vous quoi? La job se fait très bien, même si c'est 65 heures de travail. Pis c'est là que je rejoins le point de Yannick, comment... C'est deux poids, deux mesures. Dans les bureaux, tu peux pas le faire, mais on va obliger les infirmières à le faire.
Ben oui.
Puis moi, j'ai un exemple frappant d'une personne que je connais, elle qui gère les sorties de l'urgence pour les personnes aînées. En m'en allant à l'urgence à Saint-François-d'Assise, c'est l'asile. C'est une infirmière à la base. Ben, elle pogne le truc, puis elle dit, OK, vous avez 14 prises de sang en attente. Envoyez-moi-les, moi, je vais vous les faire, les prises de sang, puis avoir un envoyé sur le laboratoire.
Pouf, grief syndical.
Grief syndical. Hey. Elle a juste voulu dépanner
incroyable.
Ses chums qui étaient la moitié dans du temps supplémentaire obligatoire.
Imagine-toi dans la job qu'on fait, s'il fallait fonctionner comme ça.
Ben oui, ça n'a pas de sens.
On serait incapable de performer. Tu sais, à Boulevard, on est une minuscule équipe, ce qui fait en sorte que n'importe qui peut donner un coup de main à n'importe qui parce que tout le monde est polyvalent. Oh, tabarnouche, il y a un échange chez le Canadien. Oh, ben on va attendre le gars de sport, hein, faudrait pas y enlever de l'ouvrage. Ben non, tabarnouche, t'ouvres le micro puis tu parles de l'échange du Canadien puis t'essayes de trouver quelqu'un.
Ah oui.
Puis, tu sais, moi, c'est un domaine que je connais parce que je travaille dedans depuis un peu plus de 25 ans. Mais j'ai vu des gens qui étaient capables de faire 70 heures par semaine, puis qui n'étaient pas fatigués, puis qui étaient passionnés, puis qui donnaient du rendement. J'ai vu du monde qui, après 20 heures, commençait à se plaindre qu'il était fatigué. Mm-hmm. Les deux existent. Moi, entre quelqu'un qui te donne 20 heures, puis après ça, il n'est pas capable de rien te donner parce qu'il n'y a pas de polyvalence ou parce qu'il n'y a pas de vaillance, j'aime bien mieux me tourner vers quelqu'un qui va faire ses heures sans compter. Puis à un moment donné, tu lui dis « Hey, t'as fait 70 heures cette semaine. » Ah ouais, je ne me suis pas rendu compte.
C'est ça. Mais de toute façon, ça me permet de faire une plug. Vous irez réécouter le podcast avec Joël Boutin hier de la série. On sait, on en parle de ça, du fait que le gouvernement, c'est pas malléable. Mm-hmm. Premièrement, c'est pas à l'affût de la nouvelle technologie. Puis deuxièmement, c'est pas malléable. Fait que les jeunes, ils veulent plus travailler pour une organisation comme
Donc,
ça.
Pour en revenir à cet article-là, qui mentionne qu'avec la nouvelle loi, un employé qui travaille dans deux hôpitaux différents va devoir faire un choix à travailler juste dans un hôpital. Puis si on n'a pas de temps supplémentaire à lui offrir parce qu'il est dans l'administration, c'est le cas qu'on peut lire ce matin, ben c'est just too bad. Tu iras travailler dans un restaurant à laver de la vaisselle, mais tu peux pas aider dans le réseau de la santé ailleurs. C'est weird, Denis. Puis chez Santé Québec, on indique que les employés qui souhaitent travailler davantage pourront offrir des corps de travail en temps supplémentaire au sein de l'établissement qu'ils choisiront, si c'est possible, et ils sont invités à consulter régulièrement les offres internes et à manifester leur intérêt après que leur gestionnaire ou des ressources auprès de leur gestionnaire ou des ressources humaines. Mais le gars, là, il travaille fort dans deux hôpitaux différents et il a besoin de ces deux jobs-là pour subvenir aux besoins de sa famille. Puis on lui dit, regarde, on va te donner un délai, là. Toi, tu as une clause grand-père, là. T'as un an pour te conformer, tu vas avoir juste une job, puis il va falloir embaucher quelqu'un d'autre qui va faire ta job dans l'autre hôpital. C'est cruel, c'est injuste, puis c'est cave parce qu'on a besoin de ces gens-là dans le réseau de la santé.
Imagine-toi que moi, je suis le gouvernement, OK? Moi, le vendredi, j'ose avec ma psy. Puis le vendredi, je vais m'installer. Hey, salut le gouvernement, salut, comment ça va? Puis là, ben, je parle à ma psy. Ah! J'ai des problèmes dans mon ministère de la Santé. J'ai des problèmes dans mon ministère des Transports. J'ai des problèmes au niveau de l'économie. J'ai des problèmes de compétences. J'ai des problèmes de talent. J'ai des problèmes de versatilité. J'ai des problèmes de financement. J'ai des problèmes de dette. J'ai des problèmes d'affection publique. J'ai des problèmes de vaillance. J'ai des problèmes de relève. Ma psy va me regarder et elle va dire « Bon, on commence en réglant quel problème? » Puis là, je vais dire, ben, je pense qu'on se comprend mal. Je me cherche un autre problème, finalement. J'aimerais ça me trouver un autre problème.
Ouais.
C'est ça que le gouvernement fait en inventant des histoires avec des histoires qui n'existent pas. Ouais. Ça n'a pas de bon sens.
C'est un autre sujet, mais quand je reçois des politiciens en studio qui disent Monsieur Marceau, il faut faire confiance à la science. Il faut faire confiance aux experts. Le Québec a été bâti avec ses experts, puis les politiciens se sont fiés aux experts. Regarde dans quel état est le Québec.
On a-tu gardé la facture?
Puis regarde les experts, qu'est-ce qu'ils ont demandé au réseau de la santé, là? C'est-à-dire un employé ne peut pas travailler dans deux hôpitaux différents, il faut qu'ils fassent un choix. Je trouve que c'est catastrophique. On a de la misère à trouver ces employés-là. Puis ça va être la même chose. Là, on parle d'un agent administratif, mais ça va être la même chose avec les infirmières.
Ben oui.
Si une infirmière voulait faire du travail supplémentaire puis elle voulait aller dans un autre hôpital, on va lui interdire. Non, ton travail supplémentaire, tu vas le faire dans ton hôpital. Oui, mais monsieur, c'est parce que je sais pas, moi, j'ai trop d'ancienneté puis on me permet pas de faire ce travail supplémentaire-là. Fait que je m'en vais ailleurs. Non, je suis désolé, tu vas rester à ton hôpital. On va laisser les gens dans l'autre hôpital avoir des problématiques.
Marche pas.
Non, ça marche pas. On a-tu réglé le code max là, pour ce qui est de son permis de conduire? Là? Les auditeurs l'ont insulté entre 6h et 7h.
Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait avancé?
Dont un auditeur qui, à chaque fois qu'on lui demande de t'insulter, le fait systématiquement, mais ne commente absolument rien d'autre.
Ouais, il me demande c'est qui ça?
Depuis la création de Boulevard 102.
Ben, on pourrait lui demander son nom.
C'est une fille que tu connais?
Je sais pas.
Puis dernier sujet, tu connais-tu les armes à feu, Denis?
Pas en tout.
J'ai parlé de ça dans l'heure de 6 à 7 avec les gars, puis j'en reviens toujours pas. Les policiers ont des armes de poing. Hein?
Oui.
Tout dépendant là, de quel corps de police. Là, c'est pas toujours les mêmes armes, mais ils ont des armes de poing qui se servent si jamais il y a une problématique.
Mm-hmm.
OK? Ils ont aussi, des policiers de la Sûreté du Québec, à certains endroits, des fusils d'assaut semi-automatiques de type C8.
J'ai appris ça ce matin, moi.
Ça ressemble à une petite mitraillette.
Oui, absolument.
Et le policier Grégory Vézeau est appelé pour un orignal qui, malheureusement, est en douleur sur le côté de la route. Puis il faut descendre l'orignal.
Faut l'achever.
T'as-tu déjà été à la chasse?
J'ai déjà accompagné des gens à la chasse. Je peux pas dire que je suis allé à la chasse.
Où sont situés le cœur et les poumons de l'orignal?
Ils sont pas mal dans le milieu de la bête.
Toi, tu irais dans le milieu.
Oui.
Mais si t'es pas certain, ce serait quoi ton réflexe?
De demander à quelqu'un d'autre.
De demander à quelqu'un d'autre. Si t'es seul, ce serait quoi ton réflexe?
De pas utiliser mon arme puis d'appeler quelqu'un de responsable pour le faire
mon premier réflexe serait d'utiliser Google.
Oui, peut-être, oui, effectivement.
Comment abattre un animal sans qu'il souffre? Comment abattre un orignal sans qu'il souffre? Où est situé le cœur et les poumons de l'animal pour pouvoir l'abattre puis que ce soit que l'animal n'ait pas trop de douleur? Ce serait mon premier réflexe si je suis seul dans le bois, OK? Donc là, moi, je suis un policier de la Sûreté du Québec. Je m'appelle Grégory Vézeau. C'est une histoire vraie, OK? J'ai mon arme à ma ceinture. Là, je vois l'orignal. Pauvre orignal, il faut que j'abrège ses souffrances. Puis j'ai une C8 dans le coffre qui est une genre de mitraillette semi-automatique. Puis là, je me dis, ouais, mon gun qui est à ma ceinture, d'après moi, c'est pas assez fort. Je vais aller chercher ma C8.
De là d'un gars qui avait le goût de s'en servir, là.
Il est dans le bois, mais à côté, il y a des maisons, ouais. OK? Fait qu'il dit, m'aller chercher ma semi-mitraillette. Il ouvre son coffre, il arrive proche de l'orignal, puis il n'a pas le réflexe que tout individu devrait avoir, c'est « Il est où le cœur? » Ils sont où les poumons? Tu sais, c'est... J'ai-tu des chums qui peuvent répondre à ça? Non, il n'y a pas de chums qui peuvent répondre à cette heure-là. Mais j'ai ma mitraillette. Fait que tu tires combien de balles avec ta mitraillette pour abattre l'orignal?
Est-ce que je veux abattre l'orignal ou je veux impressionner une jeune police qui a jamais vu ça, hein, un fusil d'assaut se faire tirer à quelque part? Je sais pas. Ça dépend de l'objectif de ma patente.
C'est un agent de la paix, là.
Ah oh, oui.
Tu veux juste régler la problématique de l'animal qui est en souffrance.
Moi, en haut d'une balle, j'ai manqué ma job, là. En haut d'une balle.
Fait que là, tu te dis, bon, je vais regarder sur Google, ben, où est situé le cœur, les poumons, patate, patata. Puis là, je vais prendre mon arme. Là, lui, il a décidé d'utiliser une arme puissante qui est utilisée des fois contre les méchants Hells Angels qui leur tirent dessus, tu sais. Il a tiré 12 balles. L'orignal, il était où, Denis?
Il était à terre, il était sur le côté, il bougeait plus.
L'orignal, il était à terre.
Ouais.
Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a des balles qui se sont ramassées sur une maison et à l'intérieur d'une cuisine et dans la chambre d'un enfant?
Écoute, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions.
Pis... Ce gars-là, c'est un flic!
Oui, puis il a encore le droit de se servir de son arme de service. Moi, ce gars-là, je veux dire, plus jamais un gun. Plus jamais un gun, d'autant plus qu'il n'y a pas de remords. Le non. gars n'est pas conscient qu'il a agi comme un cave avec un gun dans les mains. C'était-tu pour impressionner la petite recrue, là? Hein, agent Max Larouche m'a te montré comment est-ce qu'on se sert d'une mitraillette. Tu vas voir le hun, tu vas capoter. Tabarnache, il a tiré d'une maison. L'orignal est à terre. Il a une arme de poing. Il a le droit de s'en servir encore. Le bandit qui va venir vers lui puis qui va bouger, là, qu'est-ce qu'il va tirer avec son gun? Un char, un autobus? Enlevez-y ses guns, enlevez-y son badge. Ce gars-là n'est pas capable d'être police, mais avec respect.
Une grand-mère de 85 ans qui aurait utilisé cette semi-mitraillette-là aurait probablement eu le même résultat parce que t'as un effet de recul, mais là, la mitraillette, elle monte, là.
Ben oui.
Fait que tu tires sur l'orignal qui est à terre pour abréger ses souffrances, et pfff, ça lève dans les airs, puis finalement, ben, ça se ramasse sur une maison dans laquelle il y avait des enfants.
Il y avait une famille qui dormait, puis il y a trois balles qui ont passé dans le mur.
Oui, malgré tout, l'agent Vézeau a une perception différente des choses qui lui sont reprochées. Des gestes graves, on va se le dire, là. Et il a estimé, lui, avec son avocat, qu'une suspension d'un jour pouvait être suffisante. Et le juge McMahon a dit « Ce policier expérimenté ne semble pas saisir la portée, la nature de son devoir de prudence et de discernement dans l'utilisation d'une arme à feu. La sanction qu'il propose suggère qu'il ne réalise pas davantage la gravité de sa conduite. L'introspection et la responsabilisation semblent absentes. Et après 45 jours de suspension, il pourra effectivement réutiliser son arme de poing, donc son arme de service, mais va avoir son permis de C8 retiré. Donc, il ne pourra plus jamais prendre de mitraillette. Ce qui n'est pas une mauvaise décision de la part du juge.
Clairement, ce gars-là n'a pas le jugement nécessaire pour porter un gun à sa ceinture. Moi, j'ai pas le talent nécessaire pour porter un gun à ma ceinture. Si vous me voyez avec un gun, je vous donne la permission de m'arrêter sur le champ. Je suis pas assez responsable pour ça. J'ai pas les connaissances de base pour ça. Et probablement que, comme ta petite vieille dans l'exemple tantôt, je vais revoler d'un arbre ou dans le mur dès que je me sers de ça d'une façon ou d'une autre. Ce gars-là, hey, imagine-toi, t'aurais pu tuer du monde.
Oui.
Moi, je démissionne là, à partir de ce moment-là, puis je te dis, hey, je suis pas capable d'être police, excuse-moi, je me suis surévalué, j'endors pas la nuit pendant des mois en pensant que j'aurais pu tuer une famille en essayant d'abattre un orignal déjà abattu. Ce gars-là s'en sac comme l'an 40, c'est pas important. Minimise l'impact de son geste. C'est fini, la police, là. C'est pas assez sévère, cette sentence-là. Voyons donc.
Bon, on lui a donné 45 jours. Fait que c'est 45 jours où, bon, il sera pas sur la route. Mais bon Dieu, que quand tu fais une erreur de même, la moindre des choses données, c'est de t'excuser à la population, t'excuser devant le juge, avoir de l'air repentant. Puis au pire, le juge, il voulait te donner 45 parce qu'il voit que tu te sens cheap, parce qu'il voit que tu as fait une erreur, puis tu as peut-être fait quelque chose pour compenser pour l'erreur que tu as faite. Bien, Denis, il va peut-être t'en donner moins.
Toi, t'es une question d'attitude.
Comme lui minimise ses trucs. Ben, il y a eu le 45 jours, mais toi puis moi puis la population qui lit cet article-là sur Grégory Vezeau, ben, tu te dis, t'as peu, est-tu encore légitime que ce gars-là puisse porter une arme? Là?
Moi, je considère que ce gars-là ne peut pas me sauver la vie dans aucune circonstance avec un gun dans les mains.
Non, merci.
Non, ça va, m'attendre là.
Impossible. Hein?
Bonjour, Monsieur Vezeau, si ça ne vous dérange pas, je vais attendre vos collègues.
Ben, moi, j'aurais peur que si quelqu'un vient pour m'attaquer et lui veut tirer, que c'est moi qui vais être atteint.
Ouais, c'est ça. Un tir ami, là, qu'on appelle.
Laisse-moi me débrouiller.
Denis, je dois te laisser partir. 8h45, je jase avec Pascal CV en direct de l'Afrique qui est en train de gravir le mont Kilimanjaro. On parle de deux journées d'ascension. T'as-tu une question à lui poser?
Avait pas déjà fait ça, le Kilimanjaro?
Non.
Non, pourtant, j'y avais posé des bonnes questions quand t'es redescendu.
Oui, c'était pas fait. T'as-tu une question pour elle?
Tu comprends-tu pourquoi j'ai pas de gun?
Merci, Denis.
Salut!
Salut, Denis. Bye-bye.
On fait une courte pause et on vient. 418-971-1021, 418-971-1021.
Capital Ouest a jamé entre Saint-Beau-Royal et Laurentienne. Sur Laurentienne Sud directement, petit ralentissement, toujours hauteur rue de la Faune, c'est pas catastrophique. Capital Est de l'entrée par Henri IV jusqu'à Robert Bourassa, c'est au rouge. Sur Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge également. Henri IV Sud, hauteur Chauveau Ouest au ralenti. Sinon, 40 direction Est. Petit ralentissement un peu passé Henri IV et l'accès au pont par la 113, ça bloque à rue Beaulieu, direction nord. 20 est, ça va mieux. 20 ouest, au ralenti entre Chemin des Îles et Taniata.
Marceau le matin. Marceau.